On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent par nous.
Éric Gougeot s'active depuis plusieurs années à rendre la vie sur Terre plus harmonieuse. Investissement éthique et solidaire, responsabilité sociétale d'entreprise, économie sociale. Il est le responsable de la revue de l'économie distributive, Le Colibri.
Moi, j'ai travaillé dans l'industrie automobile avec un diplôme d'ingénieur. Ça, c'était dans les années 96-2000. Histoire de faire mes preuves et de montrer que j'étais capable de faire comme tout le monde, de gagner de la productivité, de manager des gens. Sauf que la finalité ne m'intéressait guère. À savoir gagner la productivité pour mettre des gens au chômage, c'était pas mon objectif au fond de moi-même. Je me suis intéressé au développement durable, à l'économie sociale et solidaire, à l'investissement éthique, à l'épargne solidaire. Donc c'est des mots qui peuvent évoquer des choses. Et je me suis assez vite rendu compte que c'était pas ça qui pourrait révolutionner la vie sur Terre et que les pauvres deviendraient toujours plus pauvres dans ce système-là. Le développement durable allait juste limiter les dérives, voire même justifier la poursuite des dérives. Et que il allait nécessairement falloir réussir à diminuer réellement notre empreinte écologique. Et que du coup, il fallait aller encore plus loin. Et du coup, je me suis intéressé aux idées formulées à l'époque par la décroissance, même si je n'aimais guère le mot décroissance. Je trouvais que les idées étaient importantes et qu'il fallait effectivement qu'on divise notre empreinte écologique par 3. Et je me suis rendu compte que si tout le monde devenait sobre du jour au lendemain, une bonne partie des usines arrêterait de produire, donc ça ferait beaucoup de chômeurs en plus. D'autre part, beaucoup moins de production et de vente, c'est-à-dire beaucoup moins de rentrée d'argent pour l'État. Et donc, l'État n'aurait plus d'argent non plus pour payer les hôpitaux et les instituts. Et donc, tout se casserait la figure. Certains disent, oui, la décroissance, elle va de toute façon se mettre en place. Mais si on n'anticipe pas, ça va être une réelle catastrophe.
Et tu peux expliquer la décroissance ?
La décroissance, ça se base... La décroissance, ça a été lancé par quelques personnes qui étaient en réaction par rapport au modèle du développement durable qui commençait à émerger il y a une dizaine d'années. Et ces personnes ont pris vraiment sérieusement en compte la question de l'empreinte écologique et se sont vraiment rendues compte qu'on ne pouvait pas être sérieux et penser que les pauvres deviendraient riches par la croissance. Dans la mesure où il faut que les Français qui consomment 3 fois trop diminuent par 3 leur niveau de vie. Donc il faut envisager vraiment une transition où on puisse fermer la moitié des usines en France sans que ce soit une catastrophe sociale. Et du coup, il fallait aller chercher plus loin que le développement durable. Donc ça, c'est un mouvement qui a réuni beaucoup de penseurs très intéressants comme Pierre Rabhi, comme Serge Latouche. Et moi, ça m'a vraiment motivé pour aller encore plus loin et en me disant, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir financer les services publics sans que ce soit fermer les usines, tout en étant dans un mode de sobriété où on consomme beaucoup moins. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir Marie-Louise Dubois, Les Affranchis de l'an 2000, un livre qu'elle a écrit en 1984, sur les bases de ce que son père avait déjà lancé avec la Grande Relève dans les années 35, où justement il l'amenait à une économie distributive. Et là, je me suis dit, super, c'est ce qui manquait, c'est-à-dire une alternative qui puisse continuer, c'est-à-dire une alternative qui puisse nous permettre de continuer à vivre tous ensemble à l'échelon d'un pays, tout en étant sobre ou décroissant pour ceux qui préfèrent le terme. Marie-Louise Dubois, elle est en retraite depuis quelques années et elle s'occupe du journal qu'avait fondé son père, donc La Grande Relève. Et c'est un auteur qui cherche à faire connaître l'économie distributive, que très peu de gens connaissent pour l'instant, et qui, en fait, elle nous fait part de l'héritage dont elle a bénéficié grâce à son père et à toutes les réflexions qui avaient été initiées. Son père étant Jacques Dubois, un ancien secrétaire d'État au Trésor à l'époque d'Aristide Briand, ancien député, qui s'est rendu compte qu'on marchait sur la tête en brûlant des tonnes de blé alors qu'il y avait plein de gens qui avaient faim, en faisant des lois qui interdisaient de réparer les chaussures en 1936 parce qu'on avait trop de chaussures dans les usines, et alors qu'il y avait plein de gens qui étaient pieds nus, et que quand même ça n'a pas suffi, on a fait un mois plus tard une loi qui interdisait les gains de productivité. Oui, vous ne rêvez pas, en 1936, pour limiter le chômage, on a fait des lois pour diminuer la productivité. Aujourd'hui, on n'a pas spécialement envie de diminuer la productivité parce que si on se libère de travaux pénibles, eh ben c'est tant mieux. La plupart des caissières qui vont bientôt disparaître des supermarchés, est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas ? Au niveau de la santé, certainement cuit, sauf qu'aujourd'hui c'est une catastrophe sociale. Eh ben, il y a besoin d'une réelle transformation. C'est ce que Marie-Louise et son père ont apporté comme idée, et c'est ça que j'essaye de véhiculer aussi.
Donc pour en revenir un petit peu à toi, tu disais que tu étais dans la productivité hein, pour une boîte d'automobile. Qu'est-ce qui t'a amené à penser l'économie autrement ?
Ce qui m'a amené à penser l'économie autrement, c'est que depuis tout petit, j'ai jamais pu accepter les idées dominantes qui étaient naïves et souvent non réfléchies, ou en tout cas pas cohérentes, pas suffisamment cohérentes, et j'avais toujours besoin de comprendre le pourquoi du comment. Et donc, j'ai fouillé les questions jusqu'à trouver des réponses, aussi bien sur le fonctionnement de la vie que sur l'économie.
Donc là, on parle d'un magazine hein, qui s'appelle Le Colibri, solidaire et distributif. Tu peux me le présenter ?
Oui, c'est une revue qui est complémentaire des autres médias liés au développement durable. C'est une revue qui présente les expériences qui se rapprochent de l'économie distributive. C'est donc une revue qui est complémentaire de l'âge de fer, d'alternatives économiques, de l'ensemble des médias du développement durable, avec la composante supplémentaire que l'on aborde, c'est la finance durable, qui jusqu'à maintenant était enterrée au calendrier grec. On n'avait pas le droit de questionner la monnaie, la finance, les banques, etc. Là, depuis la crise financière de 2008, enfin on peut aborder le sujet, et donc c'est ce qu'on est en train de faire avec le Colibri. En première approche, pour avoir une idée, c'est parler des monnaies locales, des monnaies complémentaires, mais avec l'idée d'aller encore beaucoup plus loin pour qu'on puisse vraiment généraliser un développement qui soit réellement durable.
Qu'est-ce que tu entends par économie solidaire et distributive ?
Alors, l'économie sociale et solidaire, les gens connaissent en général, c'est la famille des entreprises qui se gèrent autrement que par des buts capitalistiques classiques. On y met les associations, les mutuelles, les coopératives. Donc ça, c'est la famille de l'économie sociale. Dans l'économie solidaire, on va mettre toutes les entreprises d'insertion, toutes les organisations qui font de la solidarité. Et donc ça fonctionne déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et on est toujours limité par les problèmes de rentabilité. Et pour dépasser ces problèmes de rentabilité, l'économie distributive a l'avantage de re-questionner complètement la création monétaire et le partage des richesses pour qu'on ne soit pas simplement en train de limiter les dérives, mais cette fois-ci qu'on les résolve complètement. Alors l'économie distributive, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de gérer l'économie à l'échelon d'un pays ou d'un continent comme l'Europe, tout en distribuant les richesses à la source et avec des moyens qui sont beaucoup plus cohérents. En quelques mots, en fait, à l'échelon d'un pays ou de l'Europe, on sort de l'euro actuel et on met en place une nouvelle monnaie, donc un nouvel euro, qui va correspondre exactement à l'activité économique. C'est-à-dire qu'on comptabilise tous les biens et services qui sont fabriqués et qui sont disponibles dans les magasins, donc aussi bien les vêtements que la nourriture, que les services d'aide à la personne, l'ensemble de l'activité que l'on peut acheter, ça fait une certaine valeur, on fait l'argent qui correspond. En sachant que les mois suivants, on fabriquera d'autres biens et services, donc on fabriquera de l'argent en plus qui s'ajoute tous les mois. Et tous les jours, quand les consommateurs achètent, comme ça disparaît des magasins, on détruit l'argent. L'argent ne sert qu'une seule fois, comme un billet de banque ou un chèque restaurant. Et de ce fait-là, l'argent correspond exactement à l'activité économique. Donc on évite la dérive des pays stalinistes où les gens pouvaient avoir de l'argent, mais rien dans les magasins. Et on évite la dérive d'aujourd'hui où les magasins sont pleins et que la plupart d'entre nous n'avons pas d'argent pour acheter ce qu'il y a dedans. Et vous allez me dire, cet argent, ok, on le fabrique, on le détruit, mais comment les gens font pour en avoir dans leur propre porte-monnaie, dans la mesure où s'ils détruisent l'argent, comme un commerçant à qui on paye, il ne va pas se payer sur l'argent qu'il reçoit puisqu'il le détruit. Donc pour que l'argent arrive aux gens, il faut effectivement un revenu d'existence pour que tout le monde, de la naissance à la mort, ait un revenu qui arrive. En sachant que si on veut partager le travail, il ne faut pas qu'on ait de revenus d'activité. On a bien vu avec les 35 heures que ça a diminué le salaire de beaucoup de gens, et résultat des courses, il n'y a plus aucun partenaire social qui demande à ce qu'on partage le travail. C'est une sacrée réussite du système capitaliste actuel. Toujours est-il que si le partage du travail est une nécessité aujourd'hui, même à 35 heures, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens sur le carreau. Donc il faut qu'on partage le travail, mais pour partager le travail, il faudrait que le revenu n'en dépende pas du tout. D'où l'idée, en économie distributive, d'avoir un revenu qui est complètement indépendant du temps travaillé, de façon à ce qu'on partage le travail indépendamment donc du salaire.
Mais c'est tout un système qui est remis en question et remis en cause, là. Tu veux complètement bouleverser, modifier le système actuel ?
C'est une évidence à travers ce que je viens de dire que ça met beaucoup de choses en cause, mais est-ce qu'on peut en faire l'économie ? Là, aujourd'hui, il y a trois problématiques majeures que l'on est obligé de résoudre. Le premier, c'est l'équation de l'empreinte écologique. Alors, j'utilise un gros mot, mais vous avez déjà entendu que si tous les habitants de la Terre vivaient avec le niveau de vie des Français, il faudrait trois Terres. Et si c'était au niveau de vie des USA, il en faudrait entre 6 et 9. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus se dire humaniste et penser que les pauvres deviendront riches par la croissance. Et c'est génial parce que cet argument-là, il est entendable aussi bien à droite qu'à gauche, au centre et aux extrêmes. Vous dites ça à n'importe quelle personne, citoyen ou politique, et vous lui dites, vous voyez, la croissance, on ne peut pas faire avec. Il faut vraiment la remettre en cause et partager les richesses autrement. Et c'est obligé de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nos activités, nos entreprises sont de plus en plus productives et qu'on a beaucoup moins besoin d'humains en tant que force de travail et que du coup, la baisse du temps de travail, elle est inéluctable. Sauf que si on diminue les salaires des gens, ça ne marche pas. C'est ce que j'expliquais avec la nécessité de partager les revenus indépendamment du travail. Aujourd'hui, on est coincé, on ne peut pas partager le travail et pourtant, il faut le faire. Donc là, ça nécessite vraiment de revoir complètement la répartition des richesses. Donc là, on ne peut pas faire autrement. Et puis, le troisième point qui est fondamental, c'est que la monnaie aujourd'hui, avec les intérêts, nous entraîne dans une croissance exponentielle. Du fait même qu'on a des intérêts à rembourser, on est obligé d'être dans une course sans fin avec une augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire de l'argent sur la Terre, qui augmente de façon exponentielle. Certains disent, oui, on aurait pu éviter la crise financière si on avait des taux d'intérêt plus faibles, si on avait limité la spéculation. D'une part, est-ce qu'on peut demander à un trader de limiter ses bonus ? On a bien vu ces dernières années que c'est absolument impossible, mais d'autre part, même avec des taux d'intérêt de 0,1%, on est toujours dans une croissance exponentielle. Ceux qui ont fait des mathématiques sauront bien que l'intégrale d'une fonction pourcent, c'est une exponentielle. Et tant qu'on aura des intérêts payés en pourcents, le cumul sera exponentiel. Donc, quelqu'un de sérieux qui vous dit « on va résoudre la crise financière en faisant de nouveaux emprunts », c'est quelqu'un qui se moque de vous, ou alors qui est complètement naïf et ou incompétent. On ne pourra jamais résoudre les crises financières avec des monnaies avec intérêt. La seule solution, c'est d'arriver à des monnaies à 0% d'intérêt. Le gros avantage de l'économie distributive, c'est que la monnaie n'est pas créée par une décision politique, elle est créée en fonction de la production locale. On comptabilise ce qui est fait par les agriculteurs, par les artisans, par l'ensemble des entreprises, et c'est en fonction de cette production-là que l'argent est créé. Il n'y a plus de rôle politique, c'est juste mécanique. Je les volerais bien pour de bon, vos montagnes de millions. Mais bon, y'a bien ma bagnole et mon chien, le biberon du bébé, le babysitter qui vient demain. La bouffe, le loyer, la banque à rembourser. Babylone m'a bien aimé, c'est pour toi que je vais bosser. Mais bon, y'a bien cette chose que j'ai en moi, tu ne peux pas la toucher, y'a que moi qui la vois. Vision virtuelle venant des vents les plus lointains. Je suis vivant et en rêvant, je vois la vie comme elle vient. Le rêve commence. Le rêve commence. Le rêve commence. Le rêve, rêve, commence. Vas-y, rêve, rêve. Le rêve commence, je vole vite et bien mon bon. Pas de volant, les virages, je négocie bien, bien. Voilà que maintenant, un voilier me prend. Et c'est tout voile dans le vent que je voyage à présent. Je n'ai pas vu de violence.
Tu as eu de la chance.
Je n'ai pas vu de violence.
Sûrement pas en France.
Je n'ai pas vu de violence.
Je n'ai pas vu de violence.
Danse, danse, danse. Je n'ai pas vu de violence, de voiture, de ville. Et c'est en transe que je poursuis mon exil. Je vis, je vois, j'oublie les imbéciles. Et c'est là qu'au loin j'aperçois une île.
Yes.
Très vite je m'approche, sur l'eau je ricoche. Et pof, j'atterris devant le sourire d'un mioche. Dans sa main, un morceau de brioche. À côté de lui, un chien qui renifle ses poches. Ici tout est bien, quand même mieux qu'au Cinoche. L'air qu'on respire et sans personne ne roule en Porsche. On est chez quelqu'un que je sais apprécier.
Il est dans mes rêves depuis des dizaines d'années. On est chez mon frère, celui qui jamais nous envie. Celui qui aime la terre, l'eau, qui a les enfants pour amis. Lui, il sait se taire. On écoute ce qu'il dit. Car jamais, jamais, jamais de sa bouche n'apparaît le mépris. L'humour est son petit frère, l'amour son aîné. Son nom représente la terre. Il s'appelle Yakamoneye.
Yakamoneye.
Yakamoneye. Non, non, y'a pas de mangeur. Y'a pas de barbelé. Non, non, pour t'empêcher d'entrer. Y'a pas mal de mouflettes. Yakamoneye.
Un peu de zizé, au bout de liberté.
On pense qu'on va manger dans le moment. Qu'est-ce qu'on a planté. Y'a pas quoi s'inquiéter. Non, non, chez Yakamoneye. Y'a pas de monnaie. Yakamoneye. Y'a pas mal de mouflettes. Et c'est bien les mouflettes. Je rêve, oh oui, je rêve, je fais que ça, mon frère, tu vois. Je rêve, oh oui, je rêve, je rêve, je rêve. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve.
Emmène-nous avec toi.
Je rêve, oh oui, mon frère, ça vaut tous mes mois de salaire. Ma couette, c'est le repère où je mène une vie pépère. J'y repère le monde amer, et même si j'y reste fier, j'aurais du mal à refaire tout ce qui va de travers. Alors je traverse les océans pour trouver ce monde d'enfant, fond, 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 comme un démon vers ces gens plus cléments. J'y reste tout quelque temps, tant que je peux y rester. Et quand le réveil sonne, j'ai l'énergie pour lutter, car j'ai été chez mon frère.
Et je vois pas comment est-ce qu'on peut mettre en place une nouvelle monnaie, un nouveau système monétaire avant la fin du système déjà en place.
Le système déjà en place, effectivement, est en train d'arriver à sa fin, sauf que ça va passer par une hécatombe des plus pauvres pour commencer. Là, on a une porte de sortie pour éviter de faire comme dans les années 30, parce que, entre parenthèses, dans la crise de 29, c'était déjà la misère dans l'abondance, les stocks étaient pleins partout, les producteurs n'arrivaient pas à vendre parce qu'il n'y avait pas assez d'argent du côté des consommateurs, et ça a entraîné des millions de morts avec la Deuxième Guerre mondiale, et après, comme ça, on est reparti sur les 30 glorieuses. Alors, si on a envie de faire la même chose, on est bien parti pour, sauf que on pourrait faire les choses autrement si on arrêtait tout et qu'on métamorphosait l'économie maintenant. Et justement, ce que j'ai dit avec l'économie distributive qui paraît faramineux, en fin de compte, c'est très très facile à mettre en place. Dans la mesure où, d'une part, 80% des gens vivront mieux dans un modèle comme ça, puisque là, il n'y a plus de problème de retraite, plus de problème pour payer les études des enfants. Grâce aux revenus d'existence, on a un confort de vie qui est amélioré et que donc 80% des gens vivront mieux. Ce qui veut dire donc une majorité politique très forte, ce qui veut dire aussi que le jour où le débat se généralise en France, il se perpétuera dans les pays voisins comme les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, etc. Et on peut imaginer que l'Europe de l'Ouest passe en économie distributive en même temps. Et techniquement, c'est super facile, beaucoup plus que n'importe quel programme de droite ou de gauche, où on est toujours coincé et qu'on ne peut rien faire, dans la mesure où il faut que les entreprises restent compétitives. N'importe quelle politique aujourd'hui a les mains liées et ne peut jamais mettre en œuvre ses promesses. Il faut absolument toucher à rien pour que les entreprises restent rentables et que les capitaux ne s'enfuient pas. Le gros avantage avec la proposition formulée de monnaie distributive, c'est que les capitaux peuvent s'enfuir. Ça ne gêne en rien dans la mesure où du jour au lendemain, on décide que l'euro et les dollars n'ont plus de valeur en Europe et qu'on met en place la nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie correspondant à ce qu'il y a dans les magasins, et les magasins sont pleins partout. Donc techniquement, c'est facile à mettre en œuvre. La première étape, c'est de faire connaître cette possibilité, puisque jusqu'à aujourd'hui, quasiment personne n'en avait jamais entendu parler. Vous connaissez l'histoire de la grenouille que l'on jette dans une marmite d'eau bouillante. En un coup de patte, hop, elle remonte, elle s'extirpe de l'eau chaude, ce qui fait qu'elle reste en vie. Si on prend une grenouille et qu'on la met dans une marmite froide et qu'on fait chauffer tout doucement, elle va s'endormir dans la chaleur et puis après elle aura plus de force pour pouvoir se dégager de l'eau. Aujourd'hui, à nous à sentir si on a encore de la force dans les pattes pour pouvoir changer les choses ou si on continue à s'endormir et qu'on ne fait rien. Toujours est-il qu'il y a 20 ans, il était impossible de parler d'agriculture biologique. Mon père étant viticulteur en bio depuis les années 80, je suis passé pour un marginal pendant très longtemps. Ah, curieux, depuis 10 ans maintenant, l'agriculture biologique est mise en avant et respectée, comme quoi les choses ont beaucoup changé. Il y a de gros changements qui sont possibles aujourd'hui, à nous, à nous en emparer. J'ai entendu il y a quelques jours qu'un illustre professeur de médecine parlait de Jacques Benveniste en disant « on a fait une erreur il y a 10 ans en refusant ce qu'il proposait par rapport à l'homéopathie et la mémoire de l'eau », alors que et cette Jean-Luc Montagnier disait « mais on s'est trompé, maintenant il faut le réhabiliter, il faut mettre en avant tout ce qu'il proposait ». Il ne s'est même pas passé 10 ans entre la période où on l'a enfoncé et on l'a enterré parce qu'il est mort et le moment où on le cherche à le réhabiliter. On a des opportunités à nous en saisir et à tous les auditeurs à continuer à se renseigner.
Donc aujourd'hui, tu es le créateur, le fondateur d'un magazine qui s'appelle donc le Colibri Solidaire et Distributif. On va ensemble prendre peut-être le numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3, ils sont là sous nos yeux, tu choisis celui que tu veux, puis on va un petit peu voir de quoi se compose cette revue.
Alors cette revue qui a été lancée par une équipe de gens du nord-est de la France et hébergée par la Maison de la Citoyenneté Mondiale, une association de Mulhouse. Elle a bénéficié du travail depuis 2 ans d'une dizaine de personnes. Et l'objectif, c'est donc de parler des expériences qui se rapprochent de l'économie distributive. Donc pour ce faire, notre idée, c'est de prendre un thème. Le thème du mois d'avril, c'était se loger, et de voir quelles sont les alternatives aujourd'hui qui se rapprochent de l'économie distributive en matière du logement. Comme dans l'économie distributive, on détruit l'argent au fur et à mesure qu'on l'utilise, on ne peut plus accumuler d'argent qui représente plusieurs mois de salaire. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus vivre avec la propriété privée classique. Et donc, on a pensé à quelque chose qui intéresserait 90% des gens, c'est une propriété d'usage. C'est-à-dire qu'on habite quelque part, on en est le propriétaire. Lorsqu'on veut aller ailleurs, on trouve un logement qui est libre, et celui dans lequel on était, on n'a plus aucun droit de regard. Il deviendra disponible pour ceux qui voudront venir dans le coin. Et avec cette propriété d'usage, en fait, ça permet à tout le monde d'être beaucoup plus confortable dans son logement, en sachant que ceux qui sont aujourd'hui propriétaires de quelques logements, la plupart du temps, c'est pour assurer leur retraite. Et bien là, en économie distributive, tout le monde est assuré d'avoir le revenu d'existence pendant sa retraite. Donc il n'y a plus besoin d'avoir des appartements pour en tirer des revenus qui sont toujours aléatoires, quel propriétaire aujourd'hui est assuré qu'il ne tombera pas sur des locataires véreux. Et la plupart des propriétaires aujourd'hui en stressent beaucoup par rapport à ça. Donc là, en économie distributive, eux vivront beaucoup mieux aussi. Et on fonctionne avec une propriété d'usage, c'est ce que je disais. Donc là, on a...
Excuse-moi, ça me coupe, ça me fait penser à cette ville de l'Aurore, Auroville, mise en place par Sri Aurobindo et la mer, où il y a aussi un petit peu ce concept d'économie et de propriété.
Tout à fait, on peut retrouver ça aussi à Twin Oaks aux USA. Il y a quelques communautés qui s'en approchent aussi en France, avec la nuance que ce sont toujours des communautés plus ou moins fermées, en tout cas qui vivent plutôt plus en autarcie qu'ouvert sur l'ensemble du pays dans lequel ils sont. L'objectif de l'économie distributive, c'est de continuer à avoir des échanges entre tous et surtout pas de vivre en autarcie. Et l'économie distributive, on en a parlé dans le Colibri, parce qu'en fait, c'est une expérience qui va encore plus loin que l'économie distributive. On nous dit souvent, oui, t'es un peu fou de parler de revenus égalitaires entre tout le monde, il y a des gens qui vont en profiter pour ne rien faire, les gens sont pas capables, ils sont pas responsables. Eh bien si, il y a déjà des expériences sur la Terre aujourd'hui et depuis des années, des expériences qui nous montrent que l'humanisme peut être vraiment plus fort que le mercantilisme. Et les rainbows, justement, on en a parlé dans le Colibri numéro 1, comme quoi il y a moyen de fonctionner par la gratuité, même si l'économie distributive ne va pas jusque là et est une étape intermédiaire en proposant une monnaie distributive. Aujourd'hui, n'importe qui a des idées humanistes sera d'abord obligé d'assurer son porte-monnaie pour pouvoir payer sa propre nourriture et ses impôts locaux. On ne peut pas sortir du système aujourd'hui, on ne peut pas le dompter. Souvent, il y a des gens qui disent « oui, il suffirait de limiter le taux d'intérêt ». Donc, avec l'histoire de la croissance exponentielle qui est due aux intérêts, mécaniquement, ce n'est pas possible. Et quand bien même, on est toujours obligé de se battre les uns contre les autres pour avoir un revenu d'activité. Et du coup, il est nécessaire d'aller vraiment beaucoup plus loin et d'envisager un fonctionnement qui est autre.
J'aimerais qu'on revienne à ton magazine, le Colibri. Pourquoi Colibri ?
Il était une fois un colibri qui s'est...
Il y avait un feu. La forêt brûlait. C'est pas celle-là, non ? C'est pas l'histoire de l'incendie ? Alors c'est laquelle ?
Il était une fois un petit colibri qui discutait avec le condor. Le condor en Amérique du Sud se targuait de voler le plus haut. Et le petit colibri se disait « Tiens, 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 eh ben, je te défie !» Sauf que le lendemain matin, pour le départ du grand vol, point de colibri. Et le condor était là à railler. Vous voyez qu'il a même pas osé venir. Eh ben, je vais vous prouver quand même que je peux monter très haut. Et il s'envola, il monta très haut, très haut, très haut, jusqu'à ce qu'il soit vraiment essoufflé, mais il était tellement haut, c'est le plus haut que tous les animaux avaient vu voler un condor. Et là, tout d'un coup, quelques mètres plus haut, un petit colibri qui disait « Eh ben, t'as vu, toi, tu peux plus monter plus haut, eh ben moi, je suis encore plus haut que toi !» Quel espiègle ! Il s'était niché dans les plumes du condor sans que celui-ci s'en aperçoive, et du coup, a utilisé le condor comme plateforme de décollage pour monter encore plus haut. Alors, cette histoire est intéressante, relatée par Eloisa Primavera, qui est marraine du journal. Ça veut dire qu'on a toujours la possibilité de monter plus haut. Alors après, avec de la compétition ou de la coopération, à nous de choisir. Et c'est cette histoire-là qui nous avait motivés à utiliser le terme du colibri, en sachant qu'il est utilisé par Pierre Rabhi depuis un bout de temps. Ce petit oiseau qui, avec sa coupe d'eau dans son bec, cherche à éteindre la forêt, ou en tout cas se contente de faire sa part pour avoir au moins sa conscience pour lui, sachant que si tout le monde faisait comme lui, la forêt pourrait s'éteindre. C'est donc des idées qui étaient intéressantes. En ce qui nous concerne, donc, on est devenu groupe local à Mulhouse pour le mouvement pour la terre et l'humanisme que Pierre Rabhi a lancé en écrivant les colibris au pluriel. Et puis surtout, Pierre Rabhi prône une sobriété. L'objectif pour nous, c'est de faire connaître ce qui est nécessaire à mettre en place au niveau macroéconomique pour généraliser une sobriété, à savoir une monnaie distributive et un partage des richesses qui soit indépendant du travail.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent par nous. Thank you.